Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue d'abord à toutes celles et tous ceux qui sont à cet instant en face de moi dans le grand studio RTL2 pour vivre un nouvel événement, un concert et une interview très très privée du groupe Trio. Nous sommes en direct jusqu'à, bon je ne sais pas, ça dépend d'eux évidemment. Donc nous allons attaquer par une interview, nous allons tout savoir de ce groupe que vous connaissez forcément si vous êtes là et si vous êtes à l'écoute, mais peut-être encore plus. Vous allez évidemment profiter de ce nouvel album et de quelques standards. Je vous demande d'applaudir le groupe Trio, ils me rejoignent maintenant. Faites du bruit pour Christophe, Manu, Gizmo et Daniel. Comment ça va? Asseyez-vous. Ça va?
Bonsoir.
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 Ça va? Très bien. Alors,
quelle ambiance!
Qu'est-ce que je vous avais dit en coulisses en vous disant que vous serez bien accueillis?
Ravi.
Je vous ai pas menti. Bon, on est très très heureux, quand je dis on, c'est toute l'équipe d'RTL2 de vous accueillir, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Vous êtes un groupe très rare médiatiquement. Même si le public vous suit maintenant depuis de longues années.
Mais pas sur RTL2.
Mais non, vous êtes super fréquent sur RTL2.
Voilà.
Et donc on est très heureux d'inaugurer nos concerts très très privés dans notre grand studio avec vous. Évidemment, même si on a eu Gossip précédemment, il y en aura d'autres à suivre, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors messieurs, vous êtes là parce qu'il y a cet album qui est entre mes mains qui s'appelle Lady Lafay qui est là et qu'on joue en ce moment sur RTL2. Merci d'abord pour ces 15 chansons qu'on retrouve sur cet album. Mais si vous le permettez, il y a sûrement des gens qui nous écoutent en ce moment sur RTL2 et sur RTL2.fr qui ne connaissent pas votre parcours. Donc ça fait un peu plus de 15 ans que vous vous connaissez. On en est où maintenant?
17 ans.
17 ans. Ouais, vous nous racontez les débuts, la genèse du groupe.
Alors, 30 secondes.
On va leur lancer un défi. Attention.
On s'est rencontrés il y a 17 ans dans une MJC de Fresnes en banlieue sud et on était trois. On venait d'origines différentes, de groupes différents et un jour, on mêlait nos guitares et on mêlait nos voix pour s'amuser lors de soirées. Et puis un jour, on est parti dans les Pyrénées et là, on a commencé encore à mêler nos voix, etc. Et en rentrant des Pyrénées, il y a un ami qui nous a dit: mais ce que vous faites, c'est génial. Je vous mets en première partie de mon groupe. Il a appelé ça Trio. Le directeur de la MJC a mis le Y. La première fois qu'on a vu une affiche de Trio, on savait même pas qu'on jouait dedans. Donc dès le début, c'est le public qui a créé ça. On a commencé à faire une cassette, on a fait un CD, on a vendu notre CD en autodistribution. Et puis là, voilà. Et aujourd'hui, on est là sur RTL 2, 15 ans après. On s'y attendait pas du tout.
Bravo.
Le talent. Bon.
Wow, JeanMichelConcy.fr. Hein. Voilà, bravo. Coup de chapeau. Voilà, gros niveau.
S'entraîner tous. On peut le faire tous.
T'imagines, pendant un quart d'heure, vous faites chacun un résumé de vos vies. Moi, je suis né en 1977 et suite. Bon, alors c'est vrai que tu as résumé rapidement, mais tout ce que tu dis est vrai parce que ça peut paraître étonnant cette histoire quand même. Et puis, vous avez aussi, vous êtes aussi le symbole du groupe qui s'autoproduit. C'est-à-dire du groupe qui n'a pas besoin des majors, des labels, des radios, on peut le dire aussi, pour se trouver un public. Et ça, c'est de plus en plus rare, de plus en plus difficile.
Non, c'est vrai qu'on est arrivé à l'époque des Louise Attack, d'autres groupes qui avaient fait un peu la même chose, Cinque Emilia ou d'autres, qui avaient la chance de passer aussi derrière la Mano Negra, derrière Boucherie Production, des gens qui avaient quand même tenté l'expérience avant nous, et d'avoir les moyens de faire des disques presque à la maison, avec peu de choses. Donc on a fait notre album avec un 16 pistes entre les bars et la MJC du quartier, mixé dans l'appartement d'un copain. Et puis on a été le lâcher avec notre sac à dos, avec Bibou, le cinquième élément du groupe, qui est parti dans les FNAC.
Qui est votre manager et producteur exécutif.
Manager et producteur exécutif, tout à fait. Et qui a été dans les FNAC directement amener le disque. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Ouais.
Et vous aviez vendu, dites-moi si mon chiffre est bon, 15 000 albums autoproduits. C'est un truc de dingue, c'est un record,
ça, c'est
non?
Le record de France d'autodistrib. Ouais.
Record de France autodistrib.
Non mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. On en a vendu 30 000
autoproduits.
Je crois qu'on est autour de 30 000.
Et autodistribués.
Et autodistribués, c'est-à-dire qu'on les distribuait nous-mêmes. On se voyait le mercredi, on faisait les cartons et on faisait les. Et à l'époque, t'avais deux groupes. C'était deux groupes. C'était le collectif Motivé et t'avais nous. Voilà. Donc du coup, on est assez fiers de ça.
Histoire incroyable. Alors c'est bon aussi de resituer dans le temps à cette époque, la fin des années 90. Il n'y avait pas encore la puissance d'Internet comme YouTube ou MySpace. Hein, tous ces groupes qui sont arrivés maintenant. Ça veut dire que on peut pas vraiment parier sur ça, mais vous auriez pu être.
On avait une ligne téléphonique.
Un répondeur.
Un répondeur avec les dates des concerts. Hein, tu vois.
C'est-à-dire qu'on vous appelait un numéro de téléphone.
Un numéro qui était sur la cassette de Trio pour avoir les dates. Ouais,
limite réservation sur Minitel.
L'Internet
quoi.
De Trio, tu vois.
Non, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous plaît de voir ces groupes qui, quelque part, marchent un peu sur vos traces et sont d'abord sur Internet avant d'être remarqués et diffusés?
Oui, bien sûr, je pense que tout est bon pour essayer de se faire connaître ou de propager sa musique. Et Internet aujourd'hui, c'est un bon palier. Et il y en a qui savent bien en profiter, et tant mieux pour eux. Je pense à plein de groupes, des Camini qui sortent de l'ombre, des gens comme ça. Et non, c'est très bien. Nous, c'était les cafés-concerts et la ligne téléphonique. Et aujourd'hui, c'est Internet.
Ça veut dire quand même les cafés-concerts que vous avez le live dans la peau avant même le studio. Ça, c'est quelque chose qui est en vous, non?
Bah, il suffit d'écouter les premiers albums studio de Trio pour se rendre compte qu'on était vraiment un groupe de live.
Oui, parce que l'album est enregistré en live, en fait, dans un café.
Ah, attends, d'ailleurs, justement, c'est intéressant puisque tu parles de ça. Quand tu réécoutes ces premiers albums à l'oreille, ça te fait quoi?
On kiffe grave. Bah, moi, personnellement, je les réécoute pas. Non, c'est vrai, je passe pas.
Jamais, même par curiosité.
Je commence le matin.
Mama Cubida, je dis non, je ne l'ai pas. Enfin, je sais pas si vous l'écoutez, vous les gars. Mais... Non, non, on l'écoute.
Ça fait longtemps.
Non, on joue les morceaux. Non, mais après, on
En fait, le truc, c'est que tu es censé avancer et puis te renouveler. Donc, si tu t'écoutes trop ce que tu as fait avant, il y a un truc, c'est difficile. Tu es tenté de rester comme tu faisais avant. Donc, tu as besoin de t'écouter de nouvelles musiques, des nouveaux artistes. Il y a des choses qui te. Il y a des claques. Voilà. Après, oui, tu peux le réécouter et puis tu te souviens de cette époque et tu te dis, ah ouais, on avait cette façon de jouer, cette énergie sur scène. Et c'est assez inspirant aussi, mais tu le fais pas beaucoup, quoi. Tu as besoin d'avancer. Donc, c'est pour ça que peut-être tu réécoutes pas trop, quoi.
Alors, il y a un truc assez incroyable avec vous, et je le dis très sincèrement, c'est même valable dans cet album, sur les photos que l'on voit, on n'a même pas encore écouté l'album, on feuillette avant de glisser le CD, et il y a une espèce de joie de vivre, vous êtes tout sourire sur les photos, vous sentez heureux d'être avec vos instruments entre potes, je pense qu'on peut dire ça. Est-ce que ça fait partie de l'état d'esprit de Trio, ce qui fait que bah, ça fonctionne, quoi?
En fait, je pense que déjà, voilà, on est très très différent. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on a appris à se connaître, on a appris à combiner nos différences pour que Trio soit ce qu'il est. Et après 17 ans de vie commune à 5 avec Bibou et les autres personnes qui travaillent avec nous, il reste que la joie, il reste que l'envie, que le plaisir. Toutes les mauvaises choses, les frictions, enfin, c'est des choses qui sont passées, qui sont arrivées, qui sont normales dans un couple à 5 garçons. Et ne mal l'entendez pas ce que je viens de dire. Non, voilà. Et donc du coup, il reste que l'envie de faire et les bons moments. Et voilà, et se retrouver en studio pour enregistrer, c'est on attend l'année pour ça. Quoi.
On parle. Ouais, vas-y, dis-moi.
C'est juste. Et après 17 ans, notre façon de faire de la musique, de la fabriquer reste la même. C'est très artisanal. Quelqu'un arrive, un de nous arrive avec une chanson. S'il y a l'enthousiasme, tout de suite, les autres prennent leur instrument et ça jamme sur le morceau. Et ça dit, oh, j'entendrai aussi ça. Et hop, ça fait comme de la cuisine, comme s'il y avait quatre chefs cuisiniers qui faisaient un plat ensemble. Quoi. C'est ça.
D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que tout à l'heure, j'étais en coulisses avec vous, vous étiez à droite, à gauche un peu, et c'est vrai que généralement, quand il y a un groupe, autant le dire, il y a toujours un leader qui s'affirme, voilà, c'est lui qui prend la parole. Mais vous, voilà, Bibou est en chef d'orchestre, si j'ose dire, mais vous, même pied d'égalité, c'est assez frappant, c'est même assez rare quand même. On a l'impression que si ça se passe comme ça dans la vie, ça se passe comme ça lorsque vous composez.
Ouais, bah, en fait, c'est parce que, par exemple, ce que c'est faire Guy, ce que c'est faire Daniel et ce que c'est faire Christophe, moi je sais pas le faire. Et tu peux inverser ça pour tout le monde dans le groupe. Voilà, donc on est très complémentaires, on n'a pas du tout les mêmes, ni au départ les mêmes influences musicales ou les mêmes connaissances musicales et les mêmes talents. Donc ça se mélange et ça fait ça. Donc chacun amène quelque chose, une richesse personnelle, et c'est pour ça je pense qu'il n'y a pas de leader.
Ouais, puis je voudrais rajouter, on décide tout ensemble, que ce soit la production de l'album, tout ce qui va toucher aussi au, entre guillemets, au business du groupe, voilà, au stylisme.
Les textes aussi.
C'est des blagues.
Ouais,
tout ce qui est coiffure, par exemple.
Parce
que niveau coiffure, c'est bien.
Bah,
hein,
voilà, c'est je surveille de très près mes coiffures en général.
Oui,
c'est bien aussi de dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a assez peu de groupes où il y a beaucoup. Comment dire, il y a. Où on se partage les leads vocaux, j'entends.
Oui.
C'est-à-dire qu'en général, on est sur des chanteurs, ou même quand il y a un groupe, souvent il y a un chanteur qui est devant, les musiciens derrière. Il faut aller chercher vers nos grands frères, les Zebda, tu vois, pour avoir un groupe où finalement, pour nous, c'est un vrai groupe parce que justement, ils écrivent ensemble, et du coup, sur scène, tout se mélange, et c'est ça qui fait leur force. Et pour nous, bah, finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que du coup, on est plusieurs auteurs-compositeurs, et puis du coup, on se partage les leads, et du coup, on noie un petit peu le truc parce que.
En plus qu'un groupe, on peut employer le terme de collectif, en fait, comme dans une équipe de sport qui a besoin de jouer en harmonie, être ensemble pour pouvoir avancer.
Ce qui est sûr, ce que tu retrouves sur l'album, tu parlais des photos et tout, c'est le plaisir de se retrouver après 2 ans d'absence, avoir fait des choses tous à côté et d'être dans le studio tous les quatre et à se dire, ah, on se retrouve, on fait un nouveau disque et on a passé 80% du temps à rigoler et à passer du bon temps. Ouais.
Alors, 1% enregistré.
La façon dont vous enregistrez un album, elle a beaucoup changé. Est-ce que les lieux où vous enregistrez vos albums forcément ont changé? On ne peut plus être dans la cuisine du copain ou dans la MJC. Est-ce que finalement ça a changé quelque chose dans votre musique ou dans votre approche musicale, ce qui est encore un peu différent?
C'est parce que, comme disait Manu, la manière de travailler finalement est toujours la même. C'est-à-dire que quand on arrive...
Oui, mais d'avoir des moyens supplémentaires, qu'est-ce que ça apporte?
C'est sûr que là, on se retrouve à Real World, alors que de la MJC de Fresnes à Real World, sur Peter Gabriel, il y a forcément il y a un pas, mais après l'énergie est la même, etc. Tout est pareil.
Puis ça a commencé chez Christophe, chez moi, ça a commencé à la maison. Et au moment où tout était, on va dire, calé, défini, les chansons qu'on voulait aller enregistrer, après on s'est dit, bon, on veut de l'espace, on veut se faire plaisir pour aller enregistrer tout ce qui est musical, et là on est parti à Real World. Mais au départ, toute la genèse du disque s'est faite entre nous et chez nous, dans les studios de chacun respectif.
Je dois dire, à l'écoute des dernières maquettes donc pour cet album, que les Gizmo et Christophe ont fait énormément de progrès en matière de maquettes, c'est-à-dire qu'ils ont découvert ce qu'on appelle le Pro Tools, donc c'est des logiciels virtuels,
c'est un ordinateur,
on enregistre
avec
la musique
bandes,
et on peut aligner pas mal de couches musicales, des chœurs, des guitares, des synthés, des instruments virtuels. Et ils sont arrivés avec des maquettes très fournies, ce qu'ils n'avaient pas fait avant. Donc ils ont vraiment progressé aussi là. Donc il y avait des indications qui permettaient, par exemple, à moi, étant plus arrangeur, ayant des idées musicales ajoutées sur les morceaux, ça me donnait des directions et ça nourrissait mon imaginaire.
Je suis ravi. Moi, je vais proposer des maquettes pour David Guetta, d'ailleurs, les prochaines. Il n'aura plus rien à faire vu qu'il est sourd. Bah écoute, on va faire ça à sa place, ça va être super.
Donc quelque part, le succès apporte ce confort qui vous permet d'être encore meilleur.
Et de prendre le temps aussi.
Ouais.
Ça, surtout, on peut prendre le temps. On peut prendre une année pour travailler sur l'album, enfin même plus parce qu'il y a le temps d'écriture, mais on a pris une année de la première écoute jusqu'à l'album fini pour le faire, et ça c'est vraiment un vrai luxe.
Alors voilà comment on s'est retrouvé du début au dernier album enregistré. On va maintenant parler de cet album. C'est un métier, hein, c'est un conducteur.
C'est bien, moi j'aime bien.
Non, plus sérieusement, il y a déjà deux tubes énormes que vous entendez sur RTL2, évidemment. Il y a le Greenwashing, il y a la Dila Fée. Il y en a d'autres, il y a 13 autres chansons sur cet album. Je voudrais qu'on parle de deux chansons principalement. Voilà, juste parce que c'est difficile d'en sortir une ou deux. On a tous une chanson qu'on préfère. J'ai noté avec mes petits doigts un texte, et vous le lire, puis vous allez me dire pourquoi. Donc c'est sur la chanson Printemps arabe. Ça vous étonnera pas. 40 ans de dictature sous le silence de nos drapeaux, 40 ans à la dure sous les yeux des Occidentaux qui partent en vacances en Tunisie, prendre des photos d'Alexandrie, et qui d'un coup semble surpris au réveil du peuple endormi. Donc là, c'est de l'actualité. Est-ce que l'actualité, c'est parce que vous êtes, j'aime pas ce mot-là, mais techniquement on est obligé de l'employer, un peu militant, et que vous avez envie de parler de ça, ou est-ce que c'est parce que justement ça vous a inspiré que c'est devenu une chanson?
Bah, le printemps arabe, c'est particulier. C'est moi qui ai écrit cette chanson, Gizmo. Je me présente pour les auditeurs.
J'ai le mec qui parle. Moi, c'est Gizmo.
Moi, c'est Gizmo.
Tu vas parler de dos comme dans un
ouais,
vrai.
C'est
et puis,
ça.
Si c'est bien,
c'est
bah, tu peux faire l'interview de face.
Voilà, c'était pour les gens qui écoutaient. On a été joué en Tunisie, on a été joué au Soudan. Je suis parti jouer chez les Touaregs du Nord Niger. Et donc, on a vécu un petit peu le concert au milieu de ces dictatures. Et donc c'était un plaisir, un vrai bonheur de voir ces peuples se soulever, ces dictateurs tomber. Et puis c'était un rappel justement à tous ces Français qui partaient en vacances régulièrement en Tunisie, qui partaient régulièrement en vacances visiter les pyramides au Caire au milieu de populations qui étaient en souffrance totale. Donc c'était à la fois ce regard-là et à la fois le plaisir de voir tous ces dictatures tomber. Maintenant les choses évoluent de manière un peu étrange et on espère que la démocratie arrivera un jour dans ces pays, et ça va prendre du temps. Donc voilà, on est assez pressés, nous les Occidentaux, de voir tout d'un coup ces pays arriver dans la démocratie. On tape sur l'islam à grands coups de bâton. Mais je pense que voilà, faut leur laisser le temps. Et on espère en tous les cas qu'ils iront dans le bon sens.
C'est une citation, la démocratie ne se fait pas en un jour. Voilà.
Oui, ça c'est une évidence.
Parce qu'il y a une dédicace à Ali Omari aussi, qui au même moment partait en vacances en Tunisie. Ah,
tout à fait.
En tant que ministre de l'Aide. Voilà. Et voilà, ça explique quand même la responsabilité de la France, parce qu'on l'a oublié, mais c'est juste énormissime. Quoi. Voilà, donc,
pendant les émeutes, on vendait des armes anti-émeutes au CRS égyptien.
C'est vraiment la chanson d'un instant aussi. Voilà, de ce moment où ce printemps arabe. Je sais que moi, en tant qu'exilé d'une dictature chilienne, voilà, enfin, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir toute ma vie en Amérique du Sud. Et que voilà, enfin, c'est le rêve qu'on a toujours. Enfin, plein de gens qui se sont exilés d'Amérique du Sud, on a rêvé de ça. Et voilà, et de le voir de le vivre, à distance. Enfin, voilà, ça méritait même plus d'une chanson. Ça mériterait un album, quoi, juste pour cet instant.
Et vous savez qu'en France, on aime bien coller des étiquettes, c'est le truc. Et donc, quand il y a un groupe comme ça qui dit, ou qui chante en l'occurrence, des choses importantes, essentielles, qui collent à l'actu, on dit qu'ils sont donc militants, engagés. Ça veut tout dire et rien dire. C'est un peu le sketch des Inconnus à l'époque où vous avez fait La guerre, c'est mal, et puis L'amour, c'est super bien. Donc,
mais il a raison.
Oui, techniquement, c'est pas faux. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que vous assumez ou c'est parce que justement, juste, ça vous a inspiré musicalement, ça vous a donné un texte?
Ouais, je crois qu'on prend la chanson aussi comme un vecteur et une possibilité de s'exprimer. On est dans un pays qui nous le permet. Et puis on a écouté Renaud, on a écouté Higelin, on a écouté Bob Marley, on a écouté des chanteurs à texte qui nous ont inspirés, donné envie de faire de la musique. Donc je pense qu'on fait que de continuer un peu ce travail qui avait été fait par des Brel, des Brassens ou d'autres. Et on prend la musique de ce côté-là. Maintenant, heureusement, je pense dans Trio, il y a autre chose. Il y a de la fête, il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a la nonchalance. Et tout est toujours aussi dit de manière joyeuse et optimiste. Voilà, on n'a pas envie de donner des leçons, de devenir une secte, mais plus de contempler, de regarder.
Ah, je crois que Daniel
oui.
Daniel a envie de donner des leçons.
Donc, on filera le numéro de secte, évidemment. Secte.
Ouais, on en parle plus tard.
Je rejoins Gizmo sur la musique, la chanson, c'est un moyen de célébrer la vie avant tout. Alors tu peux parler de plein de choses qui te chagrinent, mais avant tout, on n'oublie pas d'être heureux de vivre et de célébrer la vie. Pas de dire je suis heureux d'être en vie et je fais de la musique.
Et d'en profiter.
Partage ça avec vous.
Ouais. Ouais, et de le partager avec vous qui êtes ici ce soir dans notre grand studio et à l'écoute évidemment sur RTL2 en une minute.
On est très à l'écoute.
Ah oui, ils sont très sages.
Quand j'ai parlé de secte,
tout le monde a fait oh ouais, une secte.
Alors, on y va.
Daniel, fais ta secte. On y va.
40 secondes, parce qu'après, ça va être le moment de jouer pour parler de la tournée. Je sais que c'est rapide. Octobre, avril, grande tournée. Je sais que vous êtes parti un peu dans des endroits incroyables. Là, on est en France. Vous êtes impatient, vous avez hâte de reprendre la route.
C'est-à-dire qu'impatient, c'est-à-dire que là, on a fait l'album, on a fait une tournée de chauffe, donc on a chauffé les morceaux, on a rodé les morceaux. Là, on est sur la conception du décor, sur la mise en scène. On est sur le papier, la conduite est faite, tout est fait. On part au Zénith de Lille là ce week-end, et puis on part sur une grosse résidence. Et puis on est hyper impatient de passer du fantasme, de l'idée à la réalité au moment où voilà, on va commencer à voir les scènes évoluer, les scènes bouger, le décor se construire.
Tu as 10 secondes.
Et voilà, on est hyper impatients. Et la première, c'est la semaine prochaine. Et une fois qu'après ce sera parti, ça sera pour. Parce que bon, voilà, c'est le but de la manœuvre, le but de tout ça, c'est d'aller retrouver les gens sur scène et puis de leur offrir un vrai spectacle. Et tant que tu m'arrêtes pas, je continuerai.
Spectacle,
et
donc, point. Rendez-vous un vrai spectacle, point. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, on va avoir plus qu'un apéritif. On vous remercie vraiment d'être venu jouer le jeu de l'État, votre très privé. Le concert très très privé dans quelques secondes. Merci. Avant la tournée. On les raccompagne dans l'horloge. Merci, bon concert, à tout de suite. On se retrouve dans quelques secondes pour le concert très très privé de Trio en direct sur RTL2.